J'essaye de ne pas gémir, mais de comprendre, comme dirait l'autre.
Ça, c'est la doxa dominante.
Alors, il se pose tout de suite une question. Est-ce que c'est de la culture?
The British people have voted to leave the European Union, and their will must be respected.
Oserais-je vous dire que je ne m'occupe pas de politique, je m'occupe d'histoire.
Vous m'enseignez le retour, et moi, je vous enseigne d'avancer.
Voilà. Voilà. Et
à nous deux, on va faire la culture.
À nous deux, nous faisons la Renaissance.
Exactement.
Qui c'est qui a un avis sur ce qu'il faudra faire? Bon, une autre question?
Bonjour Christophe, vous êtes interne à la PHP en région parisienne. Merci beaucoup de répondre à nos questions sur notre épisode qui est consacré aujourd'hui à l'hôpital public. Alors Christophe, moi la première question que j'ai, c'est que vous êtes interne, donc vous n'avez pas encore fini votre cursus d'études complète en tant que médecin. C'était d'avoir un peu votre regard sur le système d'apprentissage de la médecine en France et particulièrement des médecins.
Bonjour, bah merci de m'avoir contacté pour ces questions. Alors moi je suis interne en dernière année, donc je finis mes études là en novembre. C'est une très vaste question. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Après, donc les études de médecine en particulier, je pense en France c'est vraiment très particulier dans leur durée. Déjà, c'est des études très très longues. Hein. C'est des études qui durent entre minimum 9 ans et maximum, en théorie, 11 ans pour certaines spécialités. Moi, ce que je suis surpris, c'est la différence entre la vision que peuvent avoir, entre guillemets, l'opinion publique en général, de ce qu'on vit vraiment en médecine. C'est-à-dire que quand je suis rentré en médecine et que j'ai fait ma première année, j'avais énormément de support de gens en me disant « Waouh, tu fais la première année de médecine, tu vas voir. » Parce que tout le monde connaît un petit peu quelqu'un qui a fait une première année de médecine ou qui l'a tenté, et tout le monde sait que c'est extrêmement difficile. Donc, il y a beaucoup de support pour cette première année, et une fois qu'on l'a, ben, les gens ont l'impression que c'est fini.
C'est-à-dire que tu veux dire qu'il y a un soutien, il y a un enjeu qui est très fort sur la première année de médecine, et puis après, c'est bon, ça serait les doigts dans le nez, c'est ça?
De ce que je ressens, moi, de la vision externe, c'est un peu ça. C'est-à-dire que les gens ont l'impression, ce qui est vrai d'ailleurs, c'est-à-dire que la première année décide si on va être médecin ou pas. Et une fois qu'on a passé la première année, en théorie, si on va jusqu'au bout, on sera médecin. C'est quand même, pour être viré des études de médecine, il faut quand même avoir fait des erreurs énormes ou vraiment ne pas s'être investi du tout. Mais d'abord, il y a quand même beaucoup de spécialités et il y a beaucoup de gens qui partent avec quand même une idée vague au moins de ce qu'ils veulent faire. Et alors le système est en train d'être fait parce que l'internat va disparaître. Moi, à mon époque, on passait encore l'internat en fin de sixième année qui décidait de la spécialité. Et c'est vrai que selon ce qu'on veut faire, même si toutes les spécialités, évidemment, leurs intérêts, quelqu'un qui voudrait être, par exemple, je veux dire, chirurgien cardiaque pédiatre et qui l'a pas et qui, au final, va être, je sais pas, psychiatre. Alors, les spécialités sont très, très bien toutes les deux. C'est pas le problème. C'est pas du tout le travail que vous vouliez faire. Je faisais cette comparaison avec un ami le jour en disant, imaginons que l'artisanat marche de la même manière, que vous vouliez être artisan boucher et que ça soit un concours et que finalement vous finissiez ébéniste. Alors ébéniste c'est très bien, mais c'est pas du tout ce que vous vouliez faire au départ.
Ouais.
Donc la première année de médecine, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg, parce que c'est effectivement beaucoup de pression, mais il faut savoir que derrière, il y a encore plus de travail, encore plus de pression. C'est pour moi, la première année de médecine, c'est un peu le Mont Blanc et l'internat, par exemple, c'est l'Everest, quoi.
D'accord, ok. Et qui serait caché avec beaucoup de nuages de vent.
C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que j'avais toujours, quand j'ai passé la première année de médecine, je trouvais que c'était pas forcément très intéressant et puis très intelligent parce qu'il y avait beaucoup de par cœur, etc. Mais en fait, ça a quand même le mérite de sélectionner des gens qui vont être capables de travailler beaucoup, de s'investir énormément et d'avoir beaucoup de mémoire. Et c'est ce qu'on demande aussi dans les années de médecine. C'est énormément d'investissement et énormément de sacrifices, quoi. Alors, c'est vrai, évidemment. Oui, pardon.
De sacrifices, c'est-à-dire personnels.
Oui.
Quand on s'engage dans les études de médecine, on ne fait que ça.
Bah, c'est effectivement, on va pas dire un des problèmes, mais c'est, il faut le savoir quand on commence des études, des années de médecine, c'est qu'on est parti pour 10 ans de sacrifice personnel, effectivement, que ce soit pour la première année, mais ensuite, après, pour l'internat et l'internat en lui-même, il y a beaucoup de gens qui sacrifient une partie de leur vie personnelle, de leurs amis, de tout ce qu'ils auraient pu faire à côté. Pour pouvoir devenir médecin. Et on arrive à la trentaine avec des gens qui certes donc font un métier passionnant, hein, la médecine, mais qui à côté de ça ont dû faire une croix sur beaucoup de choses.
Est-ce que vous pensez que la formation de telle que vous l'avez connue vous, alors vous dites que du coup le système d'internat va disparaître, mais est-ce que le parcours,
le système, le passage de l'internat,
le passage, l'examen, hein, pas, oui, l'examen, pas l'examen, oui, l'internat, oui, l'examen. Vous avez raison de préciser, pardon, effectivement, l'examen, le concours qu'il y a en fin de cinquième année, c'est ça, ouais,
sixième.
Est-ce que tout ce parcours-là, enfin tout le parcours, est-ce qu'il est encore adapté déjà est-ce qu'il est déjà encore adapté au monde actuel? Est-ce qu'il est surtout adapté aux besoins du système médical, du système de santé ou du système hospitalier actuel?
Alors ça, c'est un peu difficile d'y répondre en étant qu'interne, mais je pense qu'effectivement, comme je vous dis, c'est un système extrêmement exigeant, mais c'est un métier aussi extrêmement exigeant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envoyer dans des hôpitaux des gens qui n'ont pas les capacités, les connaissances qu'il faut pour soigner des gens, parce qu'on travaille dans l'humain et que c'est extrêmement grave. Moi, ce que je pourrais reprocher au système actuel, et je pense que ça pourrait être amélioré facilement, c'est qu'il n'y a aucune équivalence en médecine. C'est-à-dire qu'on n'a pas de système LMD. Autrement dit, là, moi, je passe ma thèse cette année. Tant que je n'ai pas passé ma thèse, j'ai le bac.
D'accord, il n'y a pas d'intermédiaire.
Il n'y a pas de porte de sortie. Ouais. C'est-à-dire que notamment pour des internes ou même des externes en fin d'externat qui voudraient changer, parce qu'il y a quand même des gens qui, à un moment, peuvent se dire quand même, bon, finalement, c'est peut-être pas fait pour moi, je travaille trop, enfin, je n'ai pas envie de cette vie-là. En fait, on se retrouve un petit peu bloqué dans le système parce que, si vous êtes interne, par exemple, au milieu d'internat, que vous avez fait 8 ans de médecine déjà et que malheureusement, ça peut arriver, vous vous rendez compte que ce n'est pas forcément ce qui vous intéresse, et ben, vous y allez forcément jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas avoir sacrifié autant de choses à arriver à 8 ans d'études et retourner avec le bac. Ce n'est pas possible. Donc, vous allez forcément jusqu'au bout. Et je pense que c'est un problème pour éventuellement laisser des portes de sortie à des gens qui, à un moment, se diraient qu'ils sont pas forcément faits pour ça. Quoi. Ça peut arriver, c'est acceptable.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est un système extrêmement exigeant. Et de manière, c'est pas dit exactement, mais c'est vrai qu'on sait qu'on a un métier dans lequel on va devoir travailler beaucoup. Et on finit par penser de manière insidieuse que si on n'est pas bien à un moment, si on n'y arrive plus, etc., c'est de notre faute en fait. Moi, j'ai une anecdote là-dessus qui m'avait impressionné dans mon hôpital. Il a été mis en place un numéro pour les internes qui n'allaient pas bien. Donc, ils pouvaient appeler de manière complètement anonyme pour parler.
Et j'en ai parlé. Comme une cellule psychologique.
Ouais. Oui, c'est ça. D'accord, c'est-à-dire okay. De manière anonyme, ils étaient mis en lien avec un psychiatre de l'hôpital qui pouvait les rediriger vers un psychiatre de ville, par exemple, pour qu'ils soient vus de manière anonyme. Et en fait, j'en ai parlé avec un des internes qui s'en occupait un an et demi après. Il y avait eu un seul appel en un an et demi. Donc, pour moi, c'est assez représentatif du fait que en médecine, on apprend un peu à souffrir en silence et à bosser. Je trouve ça un petit peu dommage.
Enfin, est-ce que vous avez une explication à ça? Parce que c'est vrai que avant de m'entretenir avec vous, j'ai lu, puis ça commence à se dire qu'il y a quand même une pression qui est forte. Des fois, il y a des mécanismes de harcèlement ou de pression et sur les internes. Je pense que vous connaissez le travail de Thomas Lilti, qui est un médecin réalisateur et qui a proposé du coup un regard aussi sur. Sur l'hôpital et sur les études de médecine, qu'est-ce qui explique ce fait de souffrir en silence en fait.
Ouais, je sais parce qu'en fait c'est jamais dit vraiment et c'est quelque chose on va dire de progressif. Je ne sais pas, je n'ai pas d'explication. Je pense que si quelqu'un l'avait, ça ne serait pas moi. Mais effectivement, on sent monter cette impression de il faut que je travaille plus, il faut que je sois à la hauteur. Parce que derrière, il y a de l'humain, parce qu'en plus, la plupart des étudiants en médecine sont quand même aussi des passionnés de ce qu'ils font et ils ont envie d'être là pour leurs patients, ils ont envie d'être meilleurs, ils ont envie d'être des bons médecins. Mais en fait, paradoxalement, c'est aussi ceux qui se soignent les moins et qui font moins attention à eux.
Ouais, les cordonniers sont toujours…
C'est ça. Et puis, c'est vrai qu'on n'a pas, on a tellement l'habitude de bosser. J'ai aussi une anecdote là-dessus. Une fois, j'étais de garde et il était 4 heures du matin, donc ça faisait… Ça faisait 20 heures de suite que je bossais et ça, je commençais à être un peu fatigué, comme vous pouvez l'imaginer. Et évidemment, j'étais avec d'autres internes et d'autres chefs et je c'est sorti tout seul. Je fais, j'en peux plus, je suis crevé. Et tout le monde m'a regardé, l'air de dire, mais enfin, pourquoi tu te plains? De quoi tu te plains? Enfin, comment tu oses te plaindre? Et je veux dire, mais j'ai le droit d'être fatigué après 20 heures de garde, quoi.
Ouais, bien sûr. Est-ce que c'est souhaitable d'ailleurs de faire 20 heures de garde d'affilée?
Bah, après, c'est vrai que là, c'est pas. Le problème, c'est qu'on n'a pas de système. Effectivement, on enchaîne notre journée de travail avec notre nuit de garde. Alors maintenant, on a heureusement, dans la plupart des services, un repos de garde, hein, ce qui n'était pas le cas là, il y a 20 ans. Il faut quand même savoir qu'il y a 20 ans, les gens enchaînaient avec une journée supplémentaire, donc ils bossaient 35 heures de suite. Donc là, on a quand même la chance maintenant d'avoir un repos de garde. Après, effectivement, c'est juste que dans la plupart des services, on ne peut pas se permettre d'avoir la journée avant plus la journée après. Sinon, le service ne tourne plus, quoi.
Donc en fait, tout le monde se mobilise parce qu'il n'y a pas le choix.
Bah, je pense qu'effectivement, dans un système idéal, ça serait bien de bosser que la garde dans ces cas-là. Mais effectivement, il n'y a pas. Mais c'est vrai que la plupart du temps, quand j'en parle avec des gens qui ne sont pas en médecine, ils ont pas du tout, ils sont pas du tout au courant ou conscience que quelqu'un qui fait une garde fait 24 heures de suite. Quoi.
Ouais. Ce qui est considérable en fait.
Bah oui, oui.
Humainement parlant, et quand on regarde ça de l'extérieur, on se dit. Vous faites des métiers qui touchent effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, à la santé, donc à la vie, à la mort. Et donc, c'est que les personnes qui prennent soin des malades, en fait, sont mises dans une forme de pression au travail qui est considérable.
Oui, ça complètement. Après, effectivement, c'est contrebalancé par le fait d'avoir un métier utile, un métier valorisant. Enfin, c'est vrai que je sais que quand je rentre d'une garde chez moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir servi à quelque chose.
C'est ça qui fait tenir, des fois.
C'est ça qui fait tenir des fois, oui. C'est vrai que… En fait, je pense que ça s'améliore après l'internat. Je pense qu'une fois qu'on est médecin, qu'on est établi, qu'on a plus de recul, plus d'expérience… J'en ai parlé à des médecins et tout me dit que ça, c'est mieux après. Ouais. Il y a cette phase d'internat aussi qui est très compliquée parce qu'effectivement, on est en train d'apprendre notre métier, mais on est déjà sur le terrain. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, beaucoup de choses sur lesquelles on n'est pas sûr. Alors, évidemment qu'on a des chefs qui sont là pour nous aider, mais ils ne peuvent pas être là tout le temps. Donc, il y a cette phase d'incertitude qui est pénible, qui est pas facile à vivre. Et c'est ça que je m'en souviens d'une soirée où il n'y avait que des internes et quelqu'un a demandé « Mais si c'était à refaire, est-ce que vous le feriez ?» Et tout le monde a répondu « Non ».
Alors,
je pense que la réponse n'est pas forcément la même 10 ans après. Mmh. Je pense qu'une fois qu'on a passé cette phase-là, c'est peut-être différent. Mais il y a une phase, en tout cas, il y a une phase intermédiaire qui est compliquée.
Ouais. Et du coup, je trouve ça, moi, vous écoutez, je trouve ça quand même assez incroyable. Ça veut dire que, grosso modo, vous en bavez à un moment et puis après, vous en bavez et après, il y a plus de confort, c'est ça. Et donc, tout le monde accepte d'en passer par là.
C'est un petit peu moi on me l'a vendu, ça a toujours été un peu effectivement quand je suis rentré en première année on m'a dit tu verras une fois que tu as la première année ça va mieux. Après on m'a dit non mais il y a l'internat mais une fois que tu seras interne ça ira mieux. Et puis après on arrive à interne, on se dit non mais attendez, tu verras quand tu auras ton quand tu seras docteur ce sera plus simple. Alors après il y a aussi la façon d'exercer son métier en tant que médecin. Il y a énormément de possibilités selon les spécialités, travailler à l'hôpital, travailler en cabinet, travailler à mi-temps, travailler à temps partiel. Et puis, une fois qu'on a aussi ce fait, comme je disais, d'être docteur, c'est-à-dire qu'après, voilà, il y a plusieurs possibilités de le faire, mais au moins, on est docteur. Là, tant qu'on est interne, en fait, on a aussi ce fait d'avoir le bac, quoi. Enfin, aucune… Donc,
on vous appellera docteur une fois que vous aurez fini votre internat.
Voilà, c'est ça, pas encore.
D'accord. Ok. Et comment se passent les liens avec votre hiérarchie? Votre hiérarchie, ce sont les médecins. les chefs de service, ouais. C'est ça ?
Oui.
Comment ça se passe ? Oui. Comment... Parce que j'ai lu quand même des choses où on se dit, mais on a l'impression que les internes sont parfois utilisés un peu comme de la chair à canon ou comme... Enfin, voilà, c'est des encore des étudiants en formation, mais on leur fait faire le travail d'un médecin qui a le titre de docteur. C'est quoi votre réalité à vous ?
Alors, ma réalité, je vais parler que de ma spécialité et de mon service. Ma réalité à moi, c'est honnêtement, ça se passe plutôt très bien. Enfin, je travaille avec des médecins. J'ai la chance de travailler avec des médecins qui déjà humainement sont assez à l'écoute des internes, sont assez à l'écoute de leurs difficultés, qui sont globalement disponibles quand on a des difficultés, que ce soit médicales ou même personnelles. Donc, moi, dans mon service, ça se passe très bien. Après, effectivement, on pourra avoir d'autres amis internes dans d'autres services. Il y a malheureusement des réalités un peu plus compliquées. C'est vrai que, par exemple, on entend beaucoup parler de sexisme à l'hôpital. Mmh. C'est malheureusement encore toujours une réalité. Moi, en tant qu'homme, je n'ai pas ce problème, mais pour en avoir parlé à plusieurs internes filles, ou externe fille, il y a quand même encore un certain misogynisme à l'hôpital. C'est en train d'évoluer parce que maintenant 75% des étudiants en santé sont des femmes, donc c'est en train d'évoluer progressivement. Mm-hmm. Ça dépend des spécialités, ça dépend des hôpitaux et ça dépend des services. Mm. Après, moi, voilà, je vous le dis, comme moi, dans mon service à moi, en tout cas, ça se passe bien, donc je n'ai pas de plainte particulière à ce niveau-là. Mm.
Est-ce que ça reste un métier je ne vous ai pas demandé encore si vous comptiez éventuellement rester à l'hôpital, mais il y a une forme d'élitisme, enfin, pas de, c'est l'élite un peu, la médecine hospitalière, en CHU, enseignant, chercheur. Est-ce que c'est encore le cas ? Est-ce que vous le ressentez comme tel ?
Je ne sais pas si j'aurais dit élite. Ce que j'aime à l'hôpital, c'est effectivement le fait que tous les cas, d'un point de vue uniquement, on va dire scientifique, tous les cas un peu compliqués, tous les cas un petit peu particuliers sont envoyés à l'hôpital. Donc, c'est vrai que c'est très enrichissant à ce niveau-là. C'est aussi important, je trouve, d'avoir l'impression de faire partie du service public, d'être là vraiment pour aider les gens dans un système hospitalier qui est ce qu'il est en France, mais qui est quand même encore gratuit, heureusement. L'élite, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a un certain sens du service avec effectivement des cas plus intéressants dans le public. C'est mon ressenti pour l'instant, en tout cas.
Vous avez envie d'y rester dans l'hôpital public, au sein de l'hôpital public?
J'y réfléchis, en fait, pour parler très. Parce qu'il faut savoir dire les choses aussi, même si on n'a pas parlé d'argent en France. Mmh. Selon les spécialités, il existe aussi des grandes disparités entre le public et le privé.
Ouais,
l'argent est tabou en France. L'argent est encore plus tabou en médecine, hein, parce qu'effectivement, on travaille dans l'humain, on est quand même là pour aider les gens. Mais pour parler crûment, il y a des fois où quand on se rend compte que les salaires dans le privé, dans certaines spés, sont 4 à 5 fois les salaires du public, on a beau dire qu'on aime le service public et on a envie d'aider. On y réfléchit aussi, quoi. Enfin,
ouais.
Je sais que certains vont crier au scandale, mais il y a un moment. En fait, ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est cette différence de discours quand j'en parle avec des gens qui travaillent en entreprise, mais qui, je comprends même pas pourquoi tu poses la question. Je fais, si, je me pose la question parce que justement, j'ai envie d'aider les services publics parce que c'est intéressant d'être à l'hôpital. Mais effectivement, là, vraiment, la question de l'argent, parce que je suis
là. Et des conditions de travail aussi, peut-être ? Est-ce que dans le privé, les conditions de travail sont plus confortables, je mets des guillemets, que dans le public ?
Pas forcément. Après, souvent, il y a moins de gardes, parce que souvent, dans le privé, ça dépend de votre spé, vous faites moins de gardes. Mmh. Après, il peut y avoir des rythmes aussi. Comme il faut, la différence, c'est que dans le privé, souvent, il faut être un peu plus rentable. Donc, il y a des rythmes aussi un peu plus soutenus, quoi. Mmh. Donc tout ça est à prendre en compte. C'est vrai que c'est quelque chose de,
Mais c'est une compliqué. Question. C'est une question qui vous traverse.
En fin d'internat, je pense que il y a des spécialités où la question se pose pas parce qu'il y a des spés uniquement d'hôpital. Mm-hmm. Mais dans toutes les spés où vous avez une activité qui peut être à la fois ou privée ou publique, la question va se poser à un moment ou à un autre.
Ouais,
effectivement.
Ouais,
après, tout n'est pas, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Vous pouvez faire des, enfin, ça dépend des spés comme d'habitude, mais une partie en public, une partie en privé. Enfin, il y a beaucoup plus de, il y a des ajustements qui sont possibles à ce niveau-là.
Est-ce que entre vous, entre internes, entre futurs médecins, que vous êtes déjà quand même, est-ce qu'il y a de la compétition, est-ce qu'il y a de la concurrence?
Alors là, c'est pareil. Je vais parler de mon expérience personnelle. Moi, j'y vois beaucoup plus de, je vois beaucoup de d'entraide plutôt. Faites l'impression qu'on est un peu tous dans le même bateau et qu'on est tous, quand on est tous dans la merde, en fait, on a envie de s'aider. Donc, globalement, en tout cas, dans mon service et avec mes co-internes et les gens de ma spécialité, ça se passe plutôt très bien. Avec, je ressens beaucoup de compassion, d'empathie, d'aide. Après, c'est vrai que ça peut se poser la question parce que, par exemple, après l'internat, se pose la question du post-internat qui est généralement, si vous voulez rester à l'hôpital 2 ans en tant que chef, donc ce qu'on appelle assistant ou chef de clinique, dans des spécialités où les postes peuvent être limités, il peut évidemment exister de la compétition entre les internes pour avoir tel poste. Mais comme dans toute structure, j'ai envie de dire, avec une hiérarchie, avec une entreprise où… vous allez, pour monter en grade, si le nombre de passes est limité et qu'il y a plus, il y a moins de places que de gens qui veulent, il y a forcément une compétition qui va s'installer.
Okay. Et entre, quels sont vos liens avec les autres personnels soignants, que ce soit les équipes d'infirmiers, d'aides-soignants, et infirmiers et infirmières, c'est important parce que c'est quand même une profession essentiellement féminine, d'aides-soignantes, toutes les personnes, tous les agents hospitaliers qui interviennent, quels sont vos liens, comment ça fonctionne entre vous?
C'est vrai que c'est, moi je trouve ça très intéressant parce que c'est des, ça reste, on a, je sais pas pourquoi les gens ont tendance à voir quand même une espèce, enfin une hiérarchie genre médecin, infirmier, aide-soignant. C'est vrai que c'est plutôt, enfin c'est une équipe qui travaille ensemble, qui fait des métiers différents et des métiers qui sont surtout complémentaires. Enfin moi tout ce que fait une infirmière, je sais pas le faire. Je suis incapable de piquer un patient. Enfin, je l'ai appris pendant mes études, mais honnêtement, elle le fait 10 fois mieux que moi. Enfin, il y a plein de choses qu'elle va savoir sur le patient qui seront nécessaires. Et c'est vrai que souvent, en plus, le médecin a tendance un peu à intimider le patient. Il y a plein de choses qu'il dit, par exemple, à l'aide-soignant qui ne dira jamais au médecin. Donc, en réunion, dès qu'on fait des réunions de service ou qu'on parle d'un patient, c'est important d'avoir le ressenti de tout le monde. Pour savoir exactement, pour avoir une vision d'ensemble en fait. C'est vrai que pour moi ce sont des métiers qui sont complémentaires et qui doivent se construire au sein d'une équipe et pas forcément par opposition quoi.
Ouais, et pas dans une hiérarchie très verticale où il y aurait le médecin.
Alors après effectivement il y a des décisions qui sont d'ordre médical, il y a des décisions, enfin voilà, il y a aussi parce que au final tout est une question aussi des responsabilités, c'est-à-dire que quand la responsabilité à la fin va retomber sur le médecin, il est normal que certaines décisions lui incombent aussi. Mais voilà, comme je vous disais, ça tient, c'est pour moi un travail d'équipe à ce niveau-là quoi.
Et qui vous trouvez satisfaisant dans votre expérience?
Moi, j'ai jamais eu de. C'est vrai que, enfin, je suis désolé de. Je n'apporte pas beaucoup de.
Mais c'est
de
très bien.
Truc parce que.
Non, mais
parce
c'est, que moi, très, c'est même. Je ne cherche pas forcément le piment. Au contraire, je veux dire, peut-être ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent bien. Non, c'est à entendre aussi.
Il y a des choses qui se passent bien. Heureusement, moi, je me suis toujours bien entendu avec les études, avec les équipes d'infirmiers et d'aides-soignants. Surtout quand on est jeune interne, moi je m'en souviens de ma première garde d'urgence où j'avais dit aux infirmiers, mais des infirmiers, il ne faut pas se leurrer, qui sont là depuis 15 ans aux urgences, en savent sûrement souvent plus long que vous sur certaines choses lors de votre première garde. Donc je leur avais dit dès le départ, mais surtout vous me dites si vous voyez que j'ai fait une erreur, si j'ai oublié de prescrire quelque chose. Et sur mes premières gardes, c'est effectivement assez souvent que des infirmiers m'ont dit « Tu voulais pas faire ça en plus ?» Je fais « Ah oui. » Je fais « Bah, je te l'ai coché. » Et « Tu voulais pas ça sur la prise de sang ?» Je fais « Ah ouais, ça aurait été bien. » Je fais « Bah, je te l'ai mis aussi. » Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que moi, j'ai eu de la chance de tomber sur des gens. Après, je pense que ça dépend aussi de la façon dont les gens communiquent, quoi. Il y a des gens qui c'est pas le fait d'être médecin ou d'être infirmier, etc. C'est, il y a des gens qui ont une personnalité qui est plus difficile à gérer, qui sont moins habiles, on va dire, à travailler en équipe, quoi.
Oui. D'accord. Merci beaucoup. Christophe, juste une dernière question. Il est question de supprimer le numerus clausus, un numéro qui a été mis en place au début des années 70, si je ne me trompe pas, et qui a fait que chaque année, un certain nombre de médecins sont diplômés. Il est question de supprimer puisque effectivement on va faire appel à une baisse de la démographie médicale. Est-ce que vous avez un regard là-dessus?
Ben, en fait, je suis assez curieux de savoir comment ils vont faire parce que c'est bien beau de parler de supprimer le numerus clausus, mais par exemple, moi, l'année où je suis rentré en médecine, il y avait 200 places, on était 1600. On ne peut pas faire rentrer, enfin, ces 1600 personnes-là ne peuvent pas devenir médecins, dans le sens où, un, l'hôpital n'a pas pas la possibilité de former autant de gens aussi à la fois. Mine de rien, comme je vous disais, c'est des études qui demandent énormément de sacrifices, de connaissances et de travail. Et sur ces 1600, il y a des gens qui ne sont peut-être pas prêts à aller jusqu'à là ou qui, malheureusement, n'ont pas les capacités. Donc, même si on supprime le numerus clausus, il y a un moment où il va falloir faire une sélection quand même, d'une certaine manière, sur le nombre de gens. On ne peut pas accueillir en médecine tous les gens qui veulent être médecins. Et puis, comme dans toutes les, d'ailleurs, dans toutes les études, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut faire une sélection. Tout le monde n'est pas capable. C'est comme si vous disiez, tiens, demain, je veux un doctorat en mathématiques. Et on va vous dire, oui, vous serez docteur en mathématiques. Il faut avoir les capacités pour le faire. Je dois avouer que j'avais été un petit peu agacé, notamment aussi par le fait qu'on fasse donc les passerelles dans l'autre sens, où on disait, ce serait bien qu'il y ait plus de littéraires en médecine parce qu'ils apporteraient un peu plus d'humanité. Alors, c'est peut-être vrai sur le fait, mais je m'assure sur le fait qu'on dise que les scientifiques n'aient pas d'humanité, quoi.
Alors, oui, et puis ça veut dire que oui, que ça serait propre à des catégories de personnes et que ça ne c'est pourrait ça. Pas se travailler. Peut-être que c'est quelque chose à puis, revoir dans la formation, alors, dans ces cas-là.
Il faut pas se leurrer aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont choqués par ce qu'ils prennent par un manque d'empathie des fois de certains étudiants ou de médecins. Je pense qu'il y a aussi, ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est que, quel que soit l'étudiant en médecine, on va tous être confrontés à un moment à la maladie et à la mort de quelqu'un d'autre, et que c'est quand même quelque chose d'extrêmement violent d'y être confronté tous les jours, et que l'esprit humain va développer des protections, et que cette protection passe souvent par de l'humour noir, du cynisme. Alors, c'est pas un manque de respect envers, pour moi, c'est pas un manque de respect envers les patients, c'est juste une manière humaine de se protéger. C'est parfois un peu compliqué à vivre de rentrer chez soi et de se dire qu'il y a eu trois morts dans le service alors que c'est des gens qu'on connaissait la veille. Et que si à un moment vous prenez le temps de pleurer sur chaque personne malade que vous voyez à l'hôpital, et ben je pense qu'au bout de 6 mois, vous vous suicidez. Et qu'il y a un moment, il faut arriver à faire une séparation. Et cette séparation, moi, c'est ce que je trouve le plus dur, en fait, ce que j'ai trouvé vraiment dur dans mes études, c'est arriver à ne pas couper, en fait, le lien avec le patient et à garder cette empathie pour l'autre, parce qu'elle est importante pour être un bon médecin. Il faut rester empathique et il faut rester en contact. Mais il faut arriver à rester sur cette lame de rasoir pour ne pas basculer dans la trop grande implication, parce qu'à ce moment-là, vous en sortez plus et que vous rentrez tous les jours chez vous en pleurant et que vous ne serez pas un bon médecin non plus.
C'est savoir accueillir les émotions, les entendre et savoir qu'il y a une charge émotionnelle qui est très forte dans la pratique médicale, mais ne pas la prendre pour soi, pour ne pas éponger tout ce que vous vivez.
C'est
ça.
Et c'est vrai qu'on n'a pas de cours là-dessus, mais je ne sais même pas s'il peut y avoir des cours là-dessus. En fait, c'est pour moi, c'est une expérience qui s'apprend dès la troisième année, quand on commence à avoir des stages à l'hôpital où vous liez à des patients et ces patients, ils meurent et ils tombent malades ou ils guérissent, heureusement quand même. Mais dans tous les cas, c'est ce lien en fait avec le patient qui reste pour moi très compliqué toujours, qu'il faut construire au fur et à mesure.
Oui, d'accord. Eh ben, merci beaucoup pour ces très intéressant. juste une question bonus. Comment vous voyez la situation actuelle? C'est-à-dire comment vous... Sans parler forcément de la crise sanitaire qu'on est en train de traverser, mais plutôt quand vous voyez, ça fait un an que quasiment que les grèves, enfin les que les grèves des urgences ont commencé, que ça a été un mouvement assez, assez rare d'ailleurs en France, que les mouvements de contestation et de grève des personnels hospitaliers ont toujours été assez sporadiques et puis assez séparés entre corps de métier. Là, c'est la première fois qu'on assiste quand même à un mouvement massif avec des médecins qui quittent leur mission administrative. Comment vous voyez les choses ?
J'espère que la crise, en tout cas actuelle, fera prendre conscience au pouvoir en place, enfin, que ce soit le gouvernement actuel ou même les gouvernements passés qui ont commis un peu les mêmes choses, de l'importance de l'hôpital public et effectivement qu'il y aura une vraie prise de conscience et qu'on va réussir à travailler de manière plus sereine. Parce que c'est vrai que j'ai vu une citation qui m'avait, c'est de VDC, un interne qui dessine beaucoup sur le milieu médical, et qui disait le fait que l'hôpital public ne tient que par la dévotion de ses soignants. Et c'est vrai, mais il ne va pas pouvoir tenir des années comme ça sur la dévotion de ses soignants, parce que je pense qu'il est grand temps, de leur donner un coup de pouce si on veut pouvoir s'en sortir.
Ok, merci pour cette dernière phrase. On l'entend, on partage complètement aussi de notre regard de militant et puis même de patient qu'on est à un moment donné forcément de notre vie. Merci beaucoup Christophe pour le temps que vous nous avez accordé. Merci infiniment. Et puis bonne continuation.
Merci beaucoup.